L'Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 21. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Voilà, ici Jésus fait sa première visite au temple, première de nombreuses visites qu'il fera autour de cet évangile de Luc. Mais pour l'instant, il n'a que un mois, environ un mois, puisque le temps de purification, selon la loi de Moïse, était une trentaine de jours pour Marie. Donc, il vient au temple, il a environ un mois. Il faut dire qu'à un mois, tous les bébés se ressemblent. Enfin, je trouve, plus ou moins, tous les bébés d'un mois se ressemblent. À cette époque, Marie, Joseph et l'enfant ne portent pas encore d'auréole autour de leur tête, donc c'est une petite famille comme tout autre. Et puis, à un mois, tous les bébés suscitent les mêmes remarques partout. Qu'est-ce qu'il est mignon ! Qu'est-ce qu'il est beau ! Regarde ses petites mains, ses petits pieds. Ça, je crois on dit ça dans le monde entier, depuis le début. Mais lors de cette visite, cette petite famille croise cet homme, Siméon, qui est aussi monté au temple, et qui prend cet enfant dans ses bras, et lui, ce qu'il dit, rien à voir avec les remarques traditionnelles qu'on dit au petit bébé. Il bénit Dieu, il bénit les parents avec des espèces de prophéties qui sont grandioses. Et le verset 33, justement, dit que ses parents étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Ils étaient émerveillés de ce qu'on disait de ce petit enfant. On pourrait penser qu'il n'y a plus rien qui pourrait les surprendre, Marie et Joseph. Ils ont déjà eu la visite d'ange. Joseph, déjà, il croit à la naissance virginale. C'était le premier à le croire, et c'était encore plus difficile pour lui de le croire que pour nous. Ils ont entendu l'histoire des bergers que nous avons étudiée la semaine dernière. Marie a déjà repassé toutes ces choses dans son cœur. Donc, c'est sûr, ses parents, ils savent déjà qu'il y a un truc énorme qui se trame avec cet enfant. Mais les voici encore plus dans l'admiration. Vous voyez, dans cet enfant Jésus, il y a toujours de quoi nous émerveiller davantage, susciter encore plus notre admiration. Et j'espère que c'est le cas pour vous, pour nous, cette année encore. Une admiration accrue pour Jésus-Christ. La plupart voient Noël comme quelque chose de mignon, quelque chose de beau. Regarde les petites lumières, regarde les petits fours sur la table. Mais Siméon, il nous invite à voir bien plus. Lui, il a vu bien plus dans cet enfant. Et ce que nous voulons voir ce matin, d'abord cet enfant, la paix qu'il apporte, ensuite la chute qu'il provoque, et enfin le relèvement qu'il offre, en suivant les paroles de Siméon. Tout d'abord donc, la paix qu'il apporte, cet enfant, Siméon, il le tient dans ses bras, et il dit cette phrase bien connue, « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Quelle est cette paix dont Siméon parle ici? Il ne s'agit pas tant de la paix après la guerre. Ça, bien sûr, Jésus l'apporte aussi. Les anges ont chanté « Paix sur la terre » parmi les hommes qu'il agrée. Mais il me semble que Siméon évoque une autre dimension de la paix. Cette paix d'avoir réussi sa vie, d'avoir accompli sa mission sur la terre, cette paix avec soi-même, avec le monde autour, cette paix de pouvoir regarder le passé et le futur avec sérénité. En France, nous avons la paix dans nos frontières, mais ce n'est pas le cas partout. Combien nous la souhaitons pour d'autres régions du monde, surtout en ce moment. Par contre, ce qui manque cruellement chez nous, peut-être encore plus chez nous qu'ailleurs, c'est cette paix que Siméon connaît ici. N'est-ce pas ce que notre société recherche surtout? De pouvoir s'en aller en paix, réussir sa vie ainsi. Pensez-y, quel cadeau pourrit-on remettre entre vos mains ce Noël qui vous fasse dire la même chose que Siméon? Quel cadeau pourrait-on vous donner ce Noël qui vous fasse dire la même chose que Siméon? Maintenant, je peux m'en aller en paix. Maintenant, je peux mourir en paix. Un iPhone? Maintenant, je peux m'en aller en paix. Une voiture télécommandée? Un 13e mois? Évidemment, vous voyez bien que ce ne sont pas ces choses-là qui nous permettent de le dire. Après, en réfléchissant, j'ai pensé à une autre chose qui, éventuellement, pouvait le faire. Pas une chose matérielle, mais en tant que parent ou grand-parent, en tout cas, un beau cadeau, ce serait de voir tous nos enfants parfaitement réussir leur vie, leur mariage et l'éducation de leurs propres enfants. Là, peut-être, je me dis, on pourrait dire, je peux m'en aller en paix. Si je voyais tous mes enfants réussir leur vie, réussir leur mariage et réussir l'éducation de leurs propres enfants. Mais, est-ce que c'est donné à beaucoup ça? Est-ce que c'est facile d'arriver à cet état de paix? Le texte ne le dit pas, mais on pense que Siméon est plutôt une personne âgée, un ancien parmi son peuple. En tout cas, tous les tableaux, toutes les peintures de Siméon, on voit quelqu'un de barbu, quelqu'un d'ancien. Effectivement, normalement, quand la génération qui s'en va regarde la génération qui arrive, c'est pas forcément avec des sentiments de paix. C'est plutôt avec inquiétude vers l'avenir ou bien regret vers le passé. La situation en Israël à cette époque peut nous faire penser à nos jours. Ils avaient besoin de consolation. Le pays était malmené par ses politiciens, beaucoup d'hypocrisie et de corruption parmi ses autorités religieuses, un climat d'insécurité avec tous ces Romains autour. Combien peuvent regarder le monde qu'on va laisser à nos enfants et dire « Ça y est, je peux m'en aller en paix, les choses sont entre des bonnes mains. » Ce n'est pas vraiment ce qu'on pense quand on tient la nouvelle génération, les bébés entre nos bras. Parfois, c'est plus « Oulala, qu'est-ce qui leur attend, eux ?» Et puis, combien d'entre nous, parents, grands-parents, peut regarder notre passé et dire « Ça y est, je peux m'en aller en paix. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Je suis pas de regrets. » Je me dis que ça ne doit pas se simplifier avec les années qui passent non plus. dans 30 ans, j'aurai certainement encore plus de choses à me reprocher en tant que parent ou grand-parent ou autre. Mais Siméon, il peut le dire, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix parce qu'il tient entre ses mains le salut de Dieu. » C'est ce qu'il dit, « Mes yeux ont vu ton salut. » C'est-à-dire, regarder Jésus, c'est regarder le salut de Dieu. Ce qui permet de regarder le futur, le passé, nos vies, avec sérénité, cette consolation que tout va bien se passer. Tout va bien se passer en mourant, tout va bien se passer en s'allant là, tout va bien se passer en confiant la chose à une nouvelle génération. On ne peut que le dire si Dieu lui-même prend les choses en main, si Dieu secourt, si Dieu intervient. Et ce que Siméon a compris dans cet enfant le permet, lui, qui attendait la consolation d'Israël, lui permet d'aller en paix avec lui-même, en paix avec le monde, en paix avec ce qui va advenir dans sa mort, que ce qui meurt, qui vive, il est en paix. Ça, c'est un grand cadeau que Christ nous apporte. Mais allons un peu plus loin maintenant et voyons comment il apporte un peu cette paix et comment Jésus opère ce salut. Parce que maintenant, nous allons voir la chute qui provoque ce petit enfant. C'est étonnant, il apporte une grande paix. Mais voici cet enfant âgé d'un mois. Encore une chose étonnante, c'est la chute qui va provoquer. On parle souvent de la paix de Noël. Et pour la plupart d'entre nous, Noël évoque quelque chose de cosy, de confortable, de paisible, de joyeux. Mais ce passage rappelle un autre aspect de Noël. Siméon, lorsqu'il tient ce bébé dans ses bras, il annonce d'autres effets, d'autres réactions. Et il dit en verset 34, « Cet enfant est destiné à amener la chute de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Cet enfant va provoquer la contradiction. D'autres traductions disent « provoquer l'opposition ». Comment un petit enfant mignon comme ça peut-il provoquer l'opposition, la contradiction? Et ce que nous voyons, c'est que Jésus, il va devenir une pierre d'achoppement pour beaucoup. Et en fait, cette chute qu'il provoque, eh bien, c'est à cause de ce qu'il apporte, de ce qu'il est. La naissance de Christ, c'est une attaque contre les valeurs et les systèmes de ce monde. La naissance de Jésus contredit la voie du pouvoir et de la richesse que tout le monde recherche. On voit déjà dans sa naissance que c'était une contradiction aux valeurs de ce monde, puisque ce grand roi, eh bien, il est né dans la grande pauvreté. On a déjà vu ça avec les bergers et les crèches et l'humilité qui a entouré la naissance de Christ. Mais encore dans ce passage, nous avons un indice, un détail que, là encore, c'était dans la grande pauvreté, puisque ses parents, quand ils viennent au temple, ils offrent ce sacrifice qu'ils devaient faire pour tout premier-né, pour le racheter en quelque sorte. Et puis, ce qu'ils offrent en sacrifice, Marie et Joseph, c'est les deux tourterelles ou les deux pigeons. Mais ça, dans la loi de Moïse, ça c'était un sacrifice que les pauvres, les plus pauvres, pouvaient exceptionnellement faire. Normalement, il fallait offrir plus. Mais les gens très pauvres pouvaient exceptionnellement offrir deux pigeons. Donc, c'est un commentaire sur la famille de Jésus. Pauvre. Et toute sa naissance et toute sa situation, vous voyez, Jésus trace une autre voie. Une voie qui finalement provoque et dérange notre monde. Et en cela, le message de Noël est dérangeant, scandaleux. Puisqu'il nous dit que la vraie grandeur, c'est dans l'humilité. Et cette humilité-là est incompatible avec notre monde. Les autorités juives, comme Hérode et tout ça, les autorités juives auraient accueilli Jésus à bras ouverts s'il était entré dans leur système, s'il avait joué à leur jeu. Mais Mais non, depuis sa naissance et surtout tout au long de son ministère, on voit bien qu'il n'est pas l'un d'eux. Il contredit leurs valeurs. Alors il posait problème, il fallait se débarrasser de lui, il fallait l'écarter. Il était une menace au pouvoir et aux richesses qui s'étaient acquis. Et encore aujourd'hui, il est une menace au principe maître de ce monde que le plus fort, le plus riche, le plus beau gagne. Et Jésus provoque la chute de tout ça. Il va amener la chute de tout ça. Vous voyez, déjà Noël annonce la chute des Hérodes, des Pilates de ce monde. La preuve, c'est qu'on n'en fait pas aujourd'hui la naissance d'Hérode, la naissance de Pilate, des gens comme ça, qui ont eu tous les honneurs, toutes les dignités. Mais aujourd'hui, en fait, la naissance de Christ, pourtant né dans une pauvreté. J'aime bien les paroles du fameux cantique de Noël, « Minuit chrétien », deuxième strophe dit « Puissant du jour, fier de votre grandeur, à votre orgueil, c'est de là qu'un Dieu prêche. » Vous connaissez ces paroles ?« À votre orgueil, c'est de là qu'un Dieu prêche, de là étant de la crèche. » Parce que la phrase précédente parle de la crèche, une humble crèche, le berceau de l'enfant. Et c'est de là, de cette crèche, que Dieu prêche à notre orgueil. Vous voyez, Noël dévoile souvent nos pensées égoïstes parce que rarement nous voulons suivre ce même chemin de Christ qui est prêt à se mettre si bas pour les autres. Vous voyez à quel point cette naissance provoque la chute de cet égoïsme ou s'oppose. Et puis une autre chose qui a dérangé Israël, qui a fait chuter beaucoup, on le voit un peu, on le verra mieux dans les chapitres qui suivent, mais on le voit déjà dans ce que Simeon annonce dans le verset 31. Il parle de Jésus-Christ comme salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Vous voyez, ils sont dans le temple. Simeon prononce ses paroles dans le temple, le cœur du judaïsme. Mais il annonce déjà que ce salut va aller bien plus loin et va atteindre les peuples et les nations du monde entier. Et cette vision des choses a aussi dérangé beaucoup. L'idée que le salut, la grâce puisse être accordée aux autres. Les autres qui ne sont pas comme nous, les autres qui sont moins bien que nous, les autres qui sont pires que nous. Ça a provoqué pas mal d'opposition. Vous voyez, cet enfant, il dévoile l'égoïsme, il dévoile aussi un peu l'ethnocentrisme de beaucoup. Il l'a fait en Israël, il le fait encore dans le monde entier. Parce qu'au fond, on est tous un peu comme les Juifs, on aimerait croire que nous, on est un peu meilleurs que les autres. Nous, on mérite des avantages et des bénédictions, mais plus que d'autres. Si Dieu envoie le salut, il ferait bien de nous envoyer le salut, parce que on n'est pas si mal que ça. On est bien. Mais cela, envoyer le salut là-bas, ça, surtout pas. On aime bien croire que finalement, on n'est pas si mal que ça. C'était le problème avec les Juifs, le judaïsme. C'est pour ça que Jésus a provoqué pas mal d'opposition parce qu'il était allé envers les gens qui n'étaient pas si bien. Comme dit un autre chant, un autre grand classique de Noël, n'est-ce pas? Pas besoin, pas besoin, pas besoin d'un sauveur. Gens de bien, gens de bien, gens de bien. Nous sommes des gens de bien. Venez cet après-midi si vous ne connaissez pas. Et ne serait-ce que le chapitre 4 de l'évangile de Luc, ce serait la première prédication de Jésus dans un synagogue. Il a eu des propos très dérangeants. Il a provoqué cette opposition dans son premier message à cause de cette idée-là. Il a dit, vous voyez, Dieu, il a fait grâce. Quand Dieu voulait agir, il était allé trouver des gens en dehors d'Israël, des veuves en dehors d'Israël. Il n'a même pas béni les gens en Israël. Les gens étaient choqué par ces propos, par cette grâce qui est libre et qui touche d'autres. Alors ce jour-là, il voulait le tuer, déjà. Donc on voit un peu la chute, l'opposition que provoque la venue de cette personne, en mettant l'accent sur notre égoïsme, sur une manière qu'on est souvent centré sur nous-mêmes, qu'on se croit meilleur que des autres. La grâce, en effet, c'est quelque chose qui trouble, qui nous fait trébucher. Mais nous croyons que c'est une bénédiction d'être confronté avec ce message de Noël, même si ça dérange, même si ça trouble. J'ai pensé dans le verset 34, quand Simeon dit ces choses, c'est dans le cadre d'une bénédiction. Simeon les bénit et dit « Voici, cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de beaucoup. » Ça ne dit pas que Simeon les avertit en disant « Voilà ce qu'il va devenir. » Ça ne dit pas que Simeon les inquiéta en disant ces choses. Mais non, Simeon les bénit. Vous voyez, c'est une bénédiction de reconnaître ces choses. Dieu, il rentre dedans nos systèmes, nos valeurs pour les faire chuter, mais aussi pour nous les relever par la suite. Et ce que nous allons voir maintenant, le relèvement que cet enfant nous offre. Simeon annonce aussi que cet enfant est destiné à amener le relèvement de beaucoup. Alors là encore, comment un petit bébé, un mois, puisse relever d'autres? Normalement, on porte les bébés, ce n'est pas les bébés qui nous portent, qui nous relèvent. Et pourtant, c'est sa destinée, c'est sa mission qu'il va accomplir. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. En pensant à ce verset, je me suis posé la question, est-ce que Luc est en train de dire que certains vont chuter et que d'autres vont être relevés? Ou est-ce qu'il parle d'un même groupe de personnes, ceux qui chutent et qui se relèvent, et qui vont être relevés? Je pense que les deux sont vrais, hein. Il y a ceux qui ont trébuché contre Jésus, l'ont rejeté définitivement. D'autres ont été relevés par son ministère, sa grâce, son abaissement. Mais dans un sens, il faut que tous passent par une chute et ensuite un relèvement. Pour ceux qui acceptent d'être brisés, pour ceux qui acceptent de courber le front devant le Rédempteur, alors Christ, il va les relever. Ainsi, on chante peuple debout, chante ta délivrance. D'abord, on chante peuple à genoux, mais ensuite, on chante peuple debout, chante ta délivrance. Et voilà ce que cet enfant nous apporte aussi, nous offre. Il va nous relever de nos échecs, de nos chutes, de ce regret quand on regarde le passé, quand on arrive au soir de la vie, à la fin de la vie, et de vouloir pouvoir s'en aller en paix, mais avec un passé peut-être difficile ou lourd, rempli d'échecs, déceptions, et bien Christ est venu pour nous en relever. Mais plus encore, ce que je trouve intéressant, c'est que ce mot « relèvement » est partout ailleurs traduit « résurrection ». C'est le mot « résurrection ». Cet enfant est destiné à mener la chute et la résurrection de beaucoup. Et c'est pour ça vraiment que Simeon peut partir en paix. Il peut partir en paix parce que cet enfant apporte le salut, apporte le relèvement, la résurrection. Il nous relève d'entre les morts. Et pour ça, Jésus lui-même, il va connaître une chute, un relèvement, une résurrection pour nous sauver. Et c'est ce que Simeon annonce ici, jusqu'à là. C'est la joie, c'est la paix, mais ici, Simeon annonce le premier, un peu ce que cet enfant va faire, va devenir, puisqu'il se tourne vers sa mère en disant « Et toi, Marie, une épée te transpercera l'âme. » Et là, il évoque ce que Marie va vivre un jour. Elle va voir son fils être exécuté, crucifié. Elle va être à deux pas de la croix et subir tout ça. Donc, Simeon annonce déjà cette chute, la chute de Jésus-Christ, en quelque sorte, qui lui-même va être renversé, va être crucifié. Toute cette opposition, cette contradiction va culminer dans sa mort. Et c'est ce qui dévoile les pensées de l'humanité, de nos cœurs aussi, hein, pour rappeler que si on était là, on aurait traité Jésus de la même manière. Le fait que nous aurions voté aussi de le crucifier, nous aurions aussi l'abandonné comme ses disciples, eh bien, ça dévoile que nos cœurs sont méchants. Mais il va nous relever. Il est venu pour nous relever, il va nous ressusciter et il nous entraîne avec lui dans cette vie, dans ce relèvement, puisque oui, il est mort à la croix, mais après il est ressuscité. Vous voyez, Jésus, il est descendu très bas pour nous relever très haut. Alors, qui aurait cru que cet enfant apporte tant de paix, provoque tant de chutes, relève tant de vie? Je ne sais pas si ça vous est arrivé de donner ou recevoir en cas de Noël une petite boîte, et à l'intérieur de la boîte, il y a juste une clé. En général, une clé, c'est un bon signe. Pour un ado qui vient d'avoir son permis de conduire, une clé dans une boîte, c'est peut-être une voiture qui l'attend dehors. Pour mon anniversaire, j'ai eu juste une clé, et bien c'était pour ouvrir les terrains de tennis sur ma commune. Bon, c'est grand, c'est beaucoup quand même. Eh bien, c'est ce que nous avons ici, dans cet enfant, petit enfant d'un mois. Effectivement, c'est juste une petite boîte, c'est une clé. Mais cette clé ouvre un accès très grand, ouvre l'accès de l'éternité. Et quand vous voyez cette clé, la paix qu'il apporte, la résurrection, la vie qu'il nous donne, eh bien, vous avez accès à tout, à l'éternité. Que Dieu vous bénisse avec ce cadeau-là.